investisseurs ont eu tout un train de publications d'entreprises à analyser au titre du troisième trimestre. Celles d'Orange et de Worldline en tête du CAC 40 ont été appréciées. L'opérateur téléphonique, qui a aussi confirmé le retour d'un dividende de 70 centimes pour 2020, a gagné 6,1% et Worldline s'est apprécié de 4,9%. Sanofi, par contre, a perdu 1% malgré le relèvement de ses objectifs annuels. C'était Cécile Lecoz d'Investir pour RFI.
Merci. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 17h10 en temps universel, 18h10 à Paris. Radio G. 101.5 FM.
Bonsoir à toutes, vous écoutez L'Oreille Curieuse, la quotidienne de Radio G, culturelle et locale. Je souris car je me disais si seulement mes auditeurs et auditrices pouvaient me dire quand les musiques sont trop fortes ou pas assez fortes, ce serait un peu mieux. Honnêtement, j'ai eu du mal à écrire l'introduction de cette émission parce qu'elle marque aussi le début de la fin de notre dernière journée plus ou moins à l'air libre. Vous voyez de quoi je veux parler. Alors si on est plus ou moins sur la même longueur d'onde, j'imagine qu'on partage plus ou moins les mêmes émotions de tristesse, de frustration, d'inquiétude ou d'incompréhension. Alors oui, je me sens toute schmouloute. Ouais, c'est comme ça que je dis. Mais je suis avec vous depuis le studio de Radio G. Et à plusieurs, nous avons préparé une émission en dehors de l'actualité bouillante. Car si vous êtes là à l'écoute, c'est sans doute que vous avez besoin d'autre chose. Ce soir, vous entendrez des toiles plein les yeux où Margot vous plonge au cœur de la mise en scène d'un film. Rendez-vous en deuxième partie d'émission. Vous entendrez un reportage sur le dispositif du service civique dont on va parler désormais chaque jeudi. Ce soir, on part en Mayenne. Et Céleste est avec moi en studio. Salut Céleste.
Salut Annie.
Tu reviens avec une nouvelle chronique cinéma.
Oui, c'est ça, parce que l'actualité n'est pas très cool. Donc j'ai voulu parler d'autre chose un peu.
On va découvrir ça dans quelques instants. Et le dicton choisi ce soir pour vous soutenir ou vous faire réfléchir, vous en faites ce que vous voulez, c'est « Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse ». Voilà pour ce soir. J'ai choisi un titre, bien sûr, pour débuter cette émission, en espérant qu'il vous soit réconfortant. On écoute « Le monde s'est dédoublé » de Clara Isé.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté. L'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps fondre un instant sur les visages mêmes. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours un ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. T'éclaire de ses phares.
Maintenant, j'espère que vous avez assez d'énergie et de force pour affronter les prochaines semaines. Pour l'heure, vous aviez pu l'entendre la semaine dernière pour parler de sorties cinéma. Voici la chronique, toujours cinéma, de Céleste.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, à toutes et aux personnes non-binaires qui nous écoutent. Et oui, je suis de retour avec un script plus long, des extraits pertinents, une chronique sans titre et une passion non cachée pour le cinéma d'animation. Ce soir, je ne vais pas parler de sorties cinéma, parce qu'on est tous confinés et que les cinémas ferment. Gros soutien aux petites salles d'ailleurs. Alors j'en entends encore me dire « Oui, mais tu veux nous parler de quoi alors ? C'était bien la peine de revenir si c'est pas pour nous parler de sorties. Tu, la semaine dernière, t'as dit que tu allais nous parler de sorties, tu tiens pas tes promesses, t'es un peu le Macron de la chronique. » Alors déjà, je vois que tu es de retour, auditeur intempestif, mais c'est pas grave, je tolère ta présence. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez de la chronique de Mehdi jeudi dernier sur le célèbre compositeur japonais Ryuichi Sakamoto. Et j'ai comme qui dirait un intérêt spécifique pour la musique de film. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie véritable le savent et en ont un peu marre. Et je pense qu'ils savent aussi le sujet que je vais aborder dans quelques instants, quand j'aurai terminé cette intro d'une demi-heure. La musique de film, donc. Pour ce sujet, je voulais commencer par aborder l'un de mes compositeurs favoris. Vous l'avez deviné si vous me connaissez bien, ou que vous connaissez le compositeur de la musique en fond. Bonsoir, je suis Céleste, et aujourd'hui on va parler de Michael Giacchino. Rapide biographie du Boog, comme disent les jeunes. Michael Giacchino est né le 10 octobre 1967 dans le New Jersey et diplômé de la Juilliard School, un conservatoire privé situé à New York, extrêmement prestigieux et qui est cité dans le film High School Musical 3. Michael Giacchino se fait très vite engager par Universal, puis repéré par Disney pour travailler dans la publicité. De fil en aiguille, il devient producteur de jeux vidéo pour Disney Interactive, la filiale vidéoludique de la maison mère. Mais c'est grâce à DreamWorks, et en particulier Steven fucking Spielberg, qui se fait un nom en écrivant les bandes originales des jeux Jurassic Park, Le Monde Perdu, la série Medal of Honor et les premiers Call of Duty. C'est pendant ses débuts dans le monde en 16 bits qu'une autre personne le remarque. À l'époque, J.J. Abrams n'était pas encore le réalisateur des géniaux, même si ça reste mon avis, Star Trek et sa suite Into Darkness, Super 8 et Mission Impossible 3. Non, il a commencé sur le petit écran avec la série d'espionnage Alias, dont voici un bout du générique. On est encore loin de son style actuel. Pour Alias, on a une musique très inspirée par la musique en 8 bits, très électronique et assez peu symphonique. Et pour cause, c'est 3 ans plus tard, en 2004, que les prémices de sa musique caractéristique vont émerger. Cette année-là sort, certes, la série Lost sur laquelle Giacchino a aussi travaillé, mais surtout le 24 novembre 2004, en France, sort un des meilleurs films d'animation des années 2000. Un film sur une famille hors norme, voire même indestructible. Je parlerai sûrement des Indestructibles une autre fois, parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Sachez juste qu'à la base, le réalisateur Brad Bird voulait engager John Barry, compositeur mythique, responsable de la musique d'un grand nombre de films de James Bond, et de ce thème iconique. L'idée de choisir John Barry en tant que compositeur venait de la bande-annonce, sur laquelle était diffusée une réorchestration de la musique de Au service de Sa Majesté. Brad Bird cherchait une musique rétro-futuriste, très jazz, très années 60, le métrage se déroulant en 1962, avec beaucoup de cuivre, comme dans la musique de Barry. Mais ce dernier ne voulait pas refaire ce qu'il avait déjà fait auparavant, alors il déclina l'offre, et c'est ainsi que le job revient à Giacchino, grâce à un système de relations. Et Dieu merci pour ça, parce que sa partition pour Les Indestructibles est l'une des meilleures choses qui m'ait été donnée d'entendre à ce jour. Bien que ce ne soit pas son premier travail en tant que compositeur de musique de film, c'est son premier « gros film » entre guillemets. Et on commence à retrouver son style caractéristique qui mélange les styles, les thèmes, jonglant entre grandiose et intime. Ici, on peut entendre le discret thème d'Elastic Girl dans le film des Indestructibles. La musique est calme, car c'est le moment où elle s'infiltre dans la base du grand méchant. Pardon. Les notes s'allongent beaucoup pour symboliser l'élasticité du personnage, et le tout est fluide et s'enchaîne sans accroc pour montrer son aisance. La musique est ici comme un personnage à part. Elle accompagne l'individu. C'est pour ça qu'il nous paraît d'autant plus seul lorsqu'elle disparaît. Pour vous expliquer ce que je veux dire à propos des thèmes et leur utilisation, je vais vous faire écouter une musique et la décomposer en même temps. Écoutez bien, voici London Calling du film Star Trek Into Darkness. La musique commence par du piano. Le piano accompagne l'action tout au long du morceau. Le piano est ici pour représenter l'humain, l'intime, le quotidien. À l'écran, nous voyons un couple. La mélodie de ce piano est leur thème, un air assez répétitif, reproduisant le côté monotone, voire même lancinant de leur journée. L'homme se lève et sort du lit. Le piano continue. Les deux individus partent en voiture, s'éloignant de la ville vers une grande bâtisse en pierre. C'est un hôpital. Le piano est accompagné par un fond sonore composé de cordes et de cuivres pour le mouvement des personnages à l'écran et de leur véhicule. La musique change lorsqu'on comprend que les deux adultes sont ici pour une enfant malade. Le piano devient plus aigu. Il représente ici l'enfance, la pureté et l'innocence. Le piano est accompagné par des cordes graves pour symboliser un drame. Ici, la maladie, la mort. Le piano s'arrête lorsque le personnage masculin sort de la chambre d'hôpital. Il sort pour respirer, se détacher du quotidien. Il se détache de son thème. On comprend qu'il veut se détacher de tout. La voix d'un autre personnage fait son apparition. Son thème apparaît joué par les cordes, tout doucement. Le personnage masculin est interpellé. Il s'adresse à cet inconnu. La musique monte. L'inconnu lui dit qu'il peut l'aider à guérir sa fille. La musique explose. Le thème de l'inconnu résonne comme un espoir, mais aussi comme une menace, donnée par le ton mineur utilisé. Dans ces deux minutes, la musique donne un ton aux images. Elle les accompagne. Elle permet de caractériser un personnage, de préparer aussi à la suite. Le fait que le piano s'arrête prépare au sacrifice de l'homme pour sauver sa fille. Grâce à l'utilisation de thèmes qui fonctionnent en tant que leitmotiv, Giacchino construit sa musique, autant que le scénariste construit le film. Je reviendrai sûrement plus en détail là-dessus un autre jour. Mais sachez que leitmotiv est le nom utilisé pour caractériser un thème qui sera employé de différentes façons et dans différentes scènes, pour accompagner un personnage, ou un objet, ou un lieu, et pour qu'on se dise « Tiens, c'est son thème, ça va être important. » Un exemple tout bête est le thème de la marche impériale dans Star Wars, qui est utilisé dans toute la saga pour symboliser le côté obscur. Et c'est pour ça que j'aime autant Michael Giacchino. Au-delà d'avoir une musique efficace et marquante, elle est structurée, maîtrisée, et sait délivrer la bonne émotion au bon moment, sans être du remplissage. Je vais sûrement en reparler un autre jour parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce compositeur. Notamment ses compositions pour Pixar, Marvel ou des films plus modestes comme Jojo Rabbit. Du second souffle qu'il donne aux franchises déjà connues et aux thèmes iconiques comme Jurassic Park, Star Wars ou Star Trek. Ses collaborations avec J.J. Abrams, Tim Miller qui est le réalisateur des deux derniers Planète des Singes et du prochain Batman ou encore Brad Bird. Le thème que vous entendez en fond vient du film Vice Versa. Pour finir cette chronique, quoi de mieux qu'une composition tirée d'un des films de Brad Bird ? Musique composée évidemment par Michael Giacchino, et interprété par la chanteuse française Camille. Giacchino fait partie de ces compositeurs dont on ne parle pas assez. Au milieu des Hans Zimmer, John Williams, Ennio Morricone, on ne mentionne pas assez son travail qui a quand même marqué pas mal de gens, notamment la musique du film Là-haut. Mais ce sera pour une autre fois. C'est la fin de cette chronique, plutôt longue, mais sûrement pas de tout ce que j'ai à dire sur Giacchino. Merci de m'avoir écouté. Voyez des films, écoutez leur musique. Intéressez-vous surtout à cette musique. Portez-vous bien. Et maintenant voici Le Festin composé par Michael Giacchino, chanté par Camille du film Ratatouille, réalisé par Brad Bird.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux. Car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sortir les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Jamais on ne me dira.
Vous êtes à l'écoute de Radio G, 101.5 FM à Angers. Et c'est maintenant l'oreille curieuse, enfin maintenant depuis 19 minutes quand même. On était avec la chronique cinéma. On va continuer en voyage. On va retrouver maintenant une série de reportages. Alors l'un de ces reportages, réalisé cette fois-ci par l'autre radio et consacré au dispositif du service civique.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
En Mayenne, l'Association des paralysés de France accueille depuis quelques années de nombreux services civiques, aussi bien à la délégation départementale que dans ses friperies solidaires. Ludivine Planchard est agent associatif à l'APF à Laval, en charge notamment de l'accompagnement des services civiques, parfois à distance, comme pour la friperie solidaire de Château-Gontier. Le volontaire y est en charge de sa bonne gestion, du tri des vêtements, de l'aménagement du magasin et de l'animation de l'équipe des bénévoles. Une mission pas toujours évidente, comme l'explique Ludivine Planchard.
On a eu un peu deux profils. On a quelqu'un qui est plus discrète. Donc là, il faut vraiment l'accompagner à ce qu'elle prenne sa place face aux bénévoles. Parce que forcément, quelqu'un qui a 20 ans face à des bénévoles qui ont une cinquantaine d'années, voire plus, il faut qu'elle arrive à s'imposer. Ça a été un peu compliqué, mais on l'a aidé à ça. Après, le profil d'avant, elle était moins timide, clairement. Elle a réussi à faire sa place. Donc là, c'était plus sur gestion du magasin. De l'accompagner en disant, là, par exemple, il y a beaucoup de vêtements été, on peut faire une offre, tout ça. Donc ça a été plus ça. Il faut être autonome, il faut trouver sa place le plus vite possible, parce que 7 mois, ça passe à toute vitesse. Et puis après, ça se fait bien. Les bénévoles savent maintenant travailler avec des services civiques aussi. Il faut avoir confiance, déjà, parce qu'il y a de la gestion d'argent. Donc nous, qui dit gestion d'argent, il faut qu'on ait quelqu'un derrière la caisse qui tienne le choc, et voilà, on sait que ça peut basculer. Globalement, la directrice maintenant, ça fait longtemps qu'elle emploie des services civiques, donc elle a le feeling. Entre les entretiens et le moment où ils signent le contrat, on essaie de les faire venir deux après-midi, voire deux journées, pour vraiment qu'ils aient deux jours où ils voient le fonctionnement du magasin, qu'ils rencontrent des bénévoles. Et clairement, si nous on voit que ça passe pas, ou que les bénévoles nous disent que ça va pas passer, ou que lui, il peut se rendre compte aussi que ça passe pas, nous on dit non, faut mieux pas le faire. Donc on fait toujours quand même quelques temps d'essai, qu'ils se trompent pas, parce qu'on peut en faire qu'un, un service civique, et puis que nous on se trompe pas à se dire, ah mince, il faut qu'on le garde 7 mois alors que ça se passe mal, quoi. Donc, mais pour l'instant on n'a pas eu le cas. Ils ont une rémunération pour les 3/4, voire plus, c'est donné par l'État. L'association donne une dernière partie financière. C'est vrai que ça permet d'avoir quelqu'un en plus qui n'est pas à plein temps. On ne va pas au-delà de 24 heures, et que l'association, elle débourse pas trop d'argent, entre guillemets. Après, on sait bien que les services civiques, ils peuvent pas, c'est pas un salarié. C'est complètement différent, il n'a pas les mêmes devoirs qu'un salarié. On essaie d'être laxiste aussi sur les changements d'horaire, sur les journées qu'ils peuvent demander, parce que on sait que par rapport à leur rémunération, c'est pas un salarié, donc nous on s'attache vraiment à ça. Même les missions qu'on lui donne, on lui demande pas d'orienter une personne sur les droits du handicap. Ça va être des missions sur des animations d'activités, donc on l'accompagne au début. Enfin, nous en délégation, c'est ça. Pareil, en friperie, au début, on va l'aider à faire par exemple son planning, ou les tableaux drive avec les tarifs. Et puis au final, c'est pareil, il se débrouille, on n'est plus là à lui dire faut faire telle affiche. Oui, ça vaut le coup, parce que mine de rien, on se rend compte que même pour nous, c'est un peu gratifiant de se dire tiens, il a réussi à trouver un emploi après par exemple le service IG, parce qu'il est passé par là et parce qu'on l'a aidé à prendre la parole devant des adhérents, à faire des recherches pour trouver des nouvelles activités, ou à faire des recherches sur comment aménager le magasin. Rien que la relation avec les bénévoles, dans une équipe, après, plus tard, dans n'importe quelle équipe de travail, c'est important. Et nous aussi, on se dit, on a fait notre petit truc qui va le faire avancer un peu dans la vie, dans la vie active.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Et bien sûr, nous sommes jeudi, et un jeudi sur deux, voilà des choses qui restent un peu stables. C'est le rendez-vous d'étoiles plein les yeux. Bonjour Margot.
Bonjour Anne-Lie et bonjour à toutes et tous. Me revoici à ce micro pour évoquer avec vous un film à partir de quelques extraits sonores.
Et aujourd'hui, lequel as-tu choisi ?
Alors, à quelques jours des élections présidentielles américaines, j'ai eu envie de vous emmener aux États-Unis. La campagne électorale s'y termine dans un climat tendu, marqué ces derniers mois par des émeutes qui ont embrasé plusieurs grandes villes après la mort d'hommes noirs tués par la police. Le film de ce soir a été réalisé il y a plus de 30 ans en réaction au décès de Michael Stewart, à qui il est dédié. Alors Michael Stewart, c'était un artiste noir américain qui a succombé au début des années 1980 à une arrestation policière musclée. Le film s'appelle « Do the Right Thing » et il a été réalisé en 1988 par Spike Lee. La légende raconte que Barack et Michelle Obama sont allés le voir lors de leur premier rendez-vous galant.
C'est une belle légende.
Je crois qu'elle est vraie même. Présentée en compétition officielle au Festival de Cannes l'année suivante, Do the Right Thing constitue surtout le premier grand coup d'éclat d'un réalisateur engagé dans la dénonciation du racisme. Le critique Serge Kaganski le présente ainsi.
Le statut historique de Spike Lee sera à jamais d'avoir été le premier cinéaste noir américain, connaissant une carrière durable et construisant une œuvre conséquente. Constater ce fait est une forme de respect pour un créateur qui a toujours affirmé haut et fort sa négritude, tant dans son travail que dans ses apparitions médiatiques. Mais l'intérêt du cinéma de Spike Lee ne se réduit pas non plus à une affaire de communauté ou de couleur de peau.
Et pour nous en convaincre, je vous propose d'écouter tout de suite un premier extrait, la fin du générique début du film « Do the Right Thing ». Cause I'm black and I'm proud. I'm ready, I'm hyped, cause I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Sample, look back, you look and find nothing but rednecks for 400 years if you check. Don't worry, be happy. Vous aurez peut-être reconnu l'un des titres emblématiques du groupe de rap Public Enemy, Fight the Power, c'est-à-dire en bon français, combat le pouvoir. Ça vous donne le ton. À l'image, un coin de rue entre deux escaliers. Dans la pénombre nocturne, les murs des immeubles sont éclairés de rouge. Devant eux se détache la silhouette d'une femme, la comédienne Rosie Perez, qui danse sans interruption sur la musique. Elle est tantôt sensuelle en robe rouge moulante, tantôt sportive entre tenue de boxe et juste au corps de fitness. Le montage alterne gros plans sur son visage décidé et vues plus larges qui mettent en valeur la fluidité de sa chorégraphie dans un décor aux teintes de plus en plus saturées. Ce qui domine dans son générique visuellement mémorable, c'est l'énergie et le rouge qui donnent un ton rageur au film et annonce la couleur.
Bonjour vous, bonjour, 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 bande de babouins, allez debout, debout les mecs, on se réveille. Ici Monsieur Seigneur Love Daddy, la voix de votre choix, le meilleur, le super amateur qui vous branche pendant 12 heures. Ici sur We Love Radio 118 FM, le dernier à se coucher, mais le premier dans vos cœurs. Et ça, c'est super cool ma poule, je suis là plus black que jamais, car je suis le seul et unique Monsieur Seigneur Love Daddy, celui qui vous chatouille les oreilles avec un rayon de soleil. Et si sur mes platines malines je sonne les matines, c'est pour vous donner des vitamines. Ça, c'est de la radio super cool, mes poules.
Au cœur de Brooklyn, la radio qu'on aime, c'est We Love Radio.
Que tu sois ying ou yang, mets le cap sur le rap. Ça, c'est des mots qui parlent au cœur et ça t'empêche de prendre les boules. Raouh. Et voici maintenant le bulletin météo. Chaud.
Je voulais que le film se déroule sur un jour, qui serait le plus chaud de l'été. Et je voulais qu'il reflète les tensions raciales de New York à l'époque. Au cours de la journée, à mesure que la température grimpe, la situation se tend jusqu'à devenir explosive. J'habite New York et je sais qu'au-delà de 35 degrés, le taux d'homicide et de violence domestique augmente.
C'est ainsi que Spike Lee résume le projet de son film. La chaleur comme métaphore à peine voilée des esprits qui s'échauffent. Unité de temps et de lieu, on n'est pas très loin de la règle d'or de la tragédie antique.
Nous voulions que les spectateurs ressentent la chaleur. Je voulais qu'ils transpirent avec le film, même en le regardant dans une salle climatisée.
Poursuit le réalisateur. Et il atteint son but magistralement, mobilisant de façon inventive l'image et le son. Des murs du quartier repeints en rouge, à l'éclairage ocre de personnages parfois filmés au ralenti, la température se perçoit visuellement. Et il arrive même que l'image se trouble sous l'effet de la chaleur d'un but à gaz allumé à proximité de la caméra. Le film multiplie les gros plans sur les peaux qui transpirent, et quand l'eau fraîche coule enfin, la lumière la fait étinceler. Quant à la bande-son, entre morceaux au rythme langoureux, sirènes des voitures de police et plaintes des habitants, elle nous fait elle aussi transpirer abondamment par les oreilles. Mais revenons à notre premier extrait. Un peu comme le chant du coq, l'animateur de We Love Radio, Signor Love Daddy, interprété par Samuel Lee Jackson, réveille de sa gouaille chaude les habitants du quartier de Bedford Stuyvesant. De l'aube jusqu'au crépuscule, il mixe des disques derrière une vitre, spectateur attentif mais à distance de ce quartier populaire de Brooklyn. Et c'est là aussi l'intention de Do the Right Thing, faire le portrait d'un quartier vivant et solidaire, essentiellement habité par des Afro-Américains, filmer de l'intérieur les préoccupations de ses habitants et décortiquer les mécanismes de tension sociale qui peuvent conduire à la violence. Le personnage pivot du film, c'est Mookie, livreur de pizza, à pied, hein, pas à vélo, plutôt dilettante, interprétée par Spike Lee en personne. Mookie travaille pour Sal, italo-américain à la tête d'une pizzeria, installée depuis 30 ans dans ce quartier qu'il affectionne, à la différence de son fils Pino, joué par John Turturro, qui étale son racisme. Face à la pizzeria, une épicerie coréenne, et à côté, le parasol de trois papis oisifs et bavards. On croise aussi un ivrogne qui se fait appeler Monsieur le Maire, et puis Smiley, un jeune homme simple et bonnet, qui vend des cartes postales de Martin Luther King et Malcolm X. Ou encore Tina, la petite copine de Mookie, et Jade, sa sœur. Pas mal de jeunes qui papotent et s'apostrophent sur les marches des immeubles. Et enfin, Radio Raem, un grand gaillard qui arpente le quartier avec son transistor branché à fond, à l'écoute de Public Enemy.
Ça ressemble presque à une sitcom, non ?
Sur le papier, peut-être un peu. Mais la mise en scène de Spike Lee dilate habilement le temps et le récit, tout en insufflant constamment une tension palpable. Écoutons maintenant un second extrait. Mookie part livrer ses premières pizzas. La caméra suit Mookie en travelling, qui passe devant Monsieur le Maire, assis sur des marches avec une bière.
Mookie, amène-toi, docteur.
Maire, je prends le
temps. C'est pas mon problème, je m'en fous. Ici, c'est le maire qui cause.
D'accord, j'écoute.
Docteur.
Ben oui, quoi ?
Toujours fais ce que tu dois.
C'est tout ?
C'est tout.
C'est enregistré, je me tire.
On retrouve ensuite Mookie dans une cage d'escalier avec Smiley qui lui tend une carte postale. Mookie poursuit sa montée et la vue en plongée de l'escalier renforce notre perception de son effort. Il s'arrête épuisé sur le palier, dans la moiteur d'une lumière jaune et vaporeuse. Bien que court, cet extrait en dit long sur les enjeux de l'intrigue. Rappelez-vous, il commence par la rencontre avec le maire dont le conseil
« Toujours fais ce que tu dois »,
c'est-à-dire en version originale
« Always do the right thing »
renvoie au titre du film. Faire son devoir, faire ce qui est juste, c'est bien de ça qu'il s'agit pendant toute cette journée ponctuée de petits affrontements entre Sal et ses fils, les blancs du quartier, et leurs clients noirs. Mais « do the right thing », qu'est-ce que ça peut signifier plus concrètement ? La suite de l'extrait propose de premiers éléments de réponse. Sur les épaules de Mookie, d'abord, qui arbore fièrement un polo floqué du numéro 42 des Dodgers, le numéro mythique de Jackie Robinson, premier joueur noir de la Ligue professionnelle de baseball et militant de la cause égalitaire. Puis les cartes postales proposées par Smiley qui reproduisent des photos de Martin Luther King et Malcolm X, dont deux citations clôturent le film de Spike Lee. Les deux leaders des droits civiques se sont longuement opposés sur les moyens de la riposte à l'oppression, violence ou non-violence. À ce moment-là du film, la question n'est pas tranchée, mais les éléments du récit s'agencent inéluctablement. Écoutons à présent un dernier extrait du film. Nous sommes dans la pizzeria de Sal. Un ami de Mookie s'installe dans un box avec sa pizza, sous le mur des célébrités. Il lève les yeux et contemple avec stupeur ses photos en noir et blanc de Frank Sinatra, Robert De Niro ou Sophia Loren.
Hey, Mookie !
Quoi ?
Pourquoi il n'y a aucun black sur le mur ?
Demande à Sal, mec.
Sal, pourquoi il n'y a aucun black sur le mur ici ?
Tu veux des blacks sur le mur ? Achète-toi un pizzeria, tu pourras faire ce qui te plaît, d'accord ? Tu y mettras tes frères, tes oncles, tes nièces, tes neveux ou ton père, ta belle-mère, moi j'en ai rien à foutre, tu sais. Mais ici, c'est ma pizzeria. Americano, italien sur le mur seulement.
Relaxe-toi, papa.
Oh, toi, commence pas, hein ?
Quoi ? Ah oui, ça c'est ton point de vue, Sal, mais moi je suis client ici, hein, et c'est rare que je vois un Americano-Italien dans ce trois-rats. Tout ce que je vois, moi, c'est des blackos. Alors si tu veux qu'on dépense tout notre putain de pognon ici, eh ben, nous avons notre mot à dire. Boum.
Tu cherches à foutre la merde. Tu es un fouteur de merde, c'est ça que tu es, un fouteur de merde.
Ouais, je suis un fouteur de merde, et la merde, je marche dessus.
Je vais te montrer comment je déclare la merde. Tu viens tous les jours ici pour chercher la bagarre. Suppose que je te bombe la gueule, qu'est-ce que tu me... Eh, Mookie, Ok, je voudrais que tu fasses sortir ton pote.
Non, mais c'est pas vrai, ça. Tu vas me virer. Non, c'est pas vrai.
Qui te vire. C'est toi qui te vire tout seul.
Non, écoute-moi, tout ce que je veux, moi, c'est mes frangins sur les murs. Tu sais, Malcolm X, Nelson Mandela et aussi Michael Jordan. C'est ça que je veux demain.
Dépêche-toi de les foutre dehors.
C'est ce que j'essaie de faire.
Ah non, je crois pas. Non, mais je suis d'accord. Mais vous me virez, là, vous me potez le cul, vous me virez, tout simplement. Vous me virez. D'accord, t'as raison. Attends, j'ai payé ma pizza, non? Boycott sale.
Je vais lui boycotter son cul.
Boycott sale. Tu vas voir, tu me paieras tout ça. Mookie, j'ai payé ma pizza, hein. Je l'ai payé, mec. Et je craque un max de blé chez ce con.
Qu'est-ce que t'essaies de faire?
Mais comment, qu'est-ce que j'essaie de qu'est-ce faire? Je veux simplement les photos de mes frères sur les murs,
moi,
quoi.
Je bosse ici.
Mais écoute, ça, c'est une affaire
mec.
Entre moi et ça,
et ça
mec.
Fout dans la merde,
mais j'essaie pas de te foutre dans la merde, non. Non, je n'ai rien contre toi, je suis désolé.
T'es désolé, c'est vrai?
Ouais.
Alors reviens dans 8 jours et écrase-toi.
Quoi? 8 jours?
8 jours.
Ah. D'accord.
Salut.
Mook. Reste black.
Mook reste black. Pour l'heure, Mookie rentre dans la pizzeria reprendre son boulot. Mais pourra-t-il indéfiniment rester neutre entre ces deux parties qui s'opposent de plus en plus ouvertement? La grande réussite du film de Spike Lee consiste à dévoiler, dans des dialogues percutants et des scènes mémorables, l'hypocrisie de ceux qui, sous prétexte de paix sociale, couvrent un racisme ordinaire indigne. Certains critiques et hommes politiques ont eu beau jeu de reprocher au réalisateur, à la sortie de Do the Right Thing, d'encourager les émeutes, oubliant que le réel n'a pas besoin de la fiction pour révolter les hommes. Et Spike Lee de conclure, non sans humour,
« Je ne me souviens pas avoir entendu dire que des gens allaient commettre des meurtres après avoir vu des films d'Arnold Schwarzenegger. »
En revanche, le cinéaste a réalisé en juin dernier un bref montage qui met en parallèle des images de la séquence finale de Do the Right Thing avec celle bien réelle de la mort de George Floyd. Et le montage s'achève sur un écran sobre.
Est-ce que l'histoire va arrêter de se répéter ?
On se quitte avec quelques notes de la bande originale jazzy du film, composée par Bill Lee, le père de Spike.
Do the Right Thing est un film réalisé par Spike Lee, sorti en salle en juin 1989.
Le film est disponible en vidéo à la demande sur plusieurs plateformes, ainsi qu'en DVD et en Blu-ray. Éditeur Universal.
Et on vous suggère la version originale. Période pour regarder des films au chaud chez soi, encore et encore, non-stop. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de l'Oreille Curieuse. Alors, oui, j'ai pas très envie de quitter ce studio puisque j'ai l'impression que ça veut dire rentrer chez moi et ne plus en sortir. Mais je crois qu'on est nombreux et nombreuses dans ce cas-là. Vous pouvez réécouter toutes les émissions depuis le début de cette saison et même auparavant, je crois, sur le site de Radio G, www.radio-g.fr, à la page de l'Oreille Curieuse. Soyez indulgents et indulgentes si on ne met pas les infos en ligne tout de suite. On s'en occupera prochainement. On ne se retrouve pas lundi à 18h10. Et oui, on va prendre une semaine de réorganisation, reconfiguration. Mais on va travailler pour faire en sorte de vous retrouver à l'antenne à partir de la semaine suivante. Et nous serons le 9 novembre, si tout va bien. Si les astres de la radio sont avec nous et de l'organisation.
On espère.
Et de l'Internet, on sera avec vous le 9 novembre. Voilà tout, vous pouvez nous écrire
par mail à prog.radio@gmail.com. Vous pourrez par exemple nous proposer un sujet de chronique, une idée d'invité en ligne ou nous poser des questions auxquelles on sera ravis de répondre. Vous pouvez aussi faire des réclamations sur cette émission et nous dire à quel point on a tout raté. C'est bienvenu aussi, on fera en sorte de s'améliorer. J'ai du mal à vous quitter parce que vraiment j'ai l'impression que ça marque la fin de quelque chose. Je vous souhaite malgré tout une très bonne soirée, un très bon week-end à venir, de très bonnes semaines. On se retrouve le 9. Sachez que vous avez échappé, grâce à Céleste et à son intelligence, à un titre qui, je pense, vous aurait redynamisé, mais qui n'est pas vraiment dans l'ambiance de la programmation de Radio G. Si vous avez envie de l'écouter, vous tapez Bande Organisée. C'est Jules et tous ses amis, les rappeurs de Marseille. Alors, pour le coup, il n'y a que des rappeurs. C'est très dynamique. Je ne comprends pas ce qu'il raconte, mais l'instru est bien. Et en fait, c'est la musique actuelle et c'est un gros carton musical. Et quand même, le titre est à la fois très étrange et hyper bien.
C'est un ovni.
C'est un ovni, je vous le recommande quand même. Et peut-être qu'on se retrouvera sur Bande Organisée le 9 novembre, si tout le monde y croit très fort. Merci beaucoup, Céleste, pour ta chronique.
Bah, de rien, merci à toi, Ellie.
À bientôt.
Au revoir.
Got a plastic cup for the moonshine, funk with the bottoms up. Now, seeing things from a different perspective. My spirit is trapped in my liver. I sip some, sniff some, smack my bitch up. That's when Skits got that ass on gridlock. I mixed up which was the glass. I slipped drugs into confuse and harass a thick slut. Got an acid rap tat on my beer gut. Drunk life, north side, I'm six pack. It must be the alcohol talking. Come to the show, me and Beggars performing. Touring the glow with the booze and the dope. To me, it's all jokes till it's showtime. That's when your life's on the coke line. When I come to deliver a bit of that moonshine.
I see the world through a different kind of focus.
Fucked up, staring at the bottom of the bladder.
Another one.
Spinning like my head is in a twister.
Twisted.
Damn right, we be sipping on that moonshine.
Fucking up your breathalyzer.
Why moonshine?
Fucking up your breathalyzer.
Moonshine.
Fucking up your breathalyzer.
Moonshine.
Fucking up your breathalyzer.
I'll be that nigga sipping brews with a little bitter. Axe in the mix, life living to the limit. Shit, I couldn't give it. Fuck, I give less. Unless a bitch with big breasts spark my interest. I've been stressed, living like a Kennedy. Everyone my motherfucking enemy, except Jack from Tennessee. You my man, send my remedy. And Hennessy, Hennessy, and more fucking Hennessy. Bottoms up, let me have another shot and chug. These bottles up, I'm a young, dirty bastard, buzz. It's the moonshine, it's hazardous. It turned me into a half man, half the drug. I'm at the pub, getting hashed and buzzed. The way I'm sipping buds, it's an act of love. I'll be kissing my liquid mistress, getting pissed. Shit is like part of the business. Dirty like my dishes, rugged like the haircut, I'm vicious. To me and the beggars, we getting bitches now. Get to the booze pouring, I feel smooth warming. I put my shoes on it, start moonwalking. Now who's crew talking? This new dude's awesome, I choose brews often. New sparkling. It's a motherfucking celebration. Signing off Satan.
Bitch, I'm the shit, giving niggas bubble guts. Yeah, every whip in my crib, it go 200 plus. Except my yellow short bus, that's my Rolls Royce truck. Yeah, I be going nuts, nigga, I be going dumb. I'm thumbing through the numbers. Run up, run up if you run up. Chopstick on me, bitch, I eat you like a tuna. And these young niggas with me, they I eat you like a runner. I wonder why these niggas be hating, yo. Lord knows I really got boys shooting like the Navy, yo. Waking up my neighbors, they like, where you going, Glock? I'm going to get some paper. One to the two, to the three, and to the four. Big Glock is all about his motherfucking dope. Ready to make an entrance where my back end, bruh. Because you know I'm about to turn shit up. One to the two, to the three, and to the four. One to the two, to the three, and to the four. One to the two, to the three, and to the four. Big Glock is all about his motherfucking dope.
Radio G 101.5 FM.